Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
Ben alors, comme la voix officielle l'a dit, vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, ben, j'ai le grand bonheur de recevoir Benoît. Benoît, dis-moi ton nom de famille pour que je le prononce comme il faut.
De Perlongue. Bonjour, Daniel.
De Perlongue. Bonjour, Benoît de Perlongue. On va parler d'une organisation que je crois tu connais un peu, en tout cas depuis bientôt 10 ans, si je ne me trompe pas, déjà.
Donc, ah, t'as fait tes devoirs.
J'ai fait mes devoirs.
Le 10 mars, effectivement, ça fera 10 ans.
Voilà, bientôt. Donc, la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, qu'on va peut-être appeler CCHM à l'occasion. Excusez-nous d'avance si ça arrive. On va commencer par le commencement. Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, je comprends que c'est situé dans Hochelaga Maisonneuve, mais peut-être un peu plus que ça même. Qu'est-ce que vous faites?
Ben, c'est ancré dans Hochelaga Maisonneuve, oui, c'est son ADN est là, ben oui. Depuis 1986. On favorise l'autonomie, on développe la capacité d'agir des individus puis de la communauté de façon plus large. Donc ça démarre, coin Joliette-Adam, là où on a notre siège. Et oui, depuis une petite dizaine d'années, c'est en train de s'étaler un petit peu sur différentes sphères d'activité. Donc à la base, cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, ça le dit, ben c'est oui. Une cuisine collective, c'est le démarrage de l'organisation. Par la suite, est venu se greffer, de par l'expertise autour de l'éducation populaire, tout un processus d'accompagnement de l'individu à travers l'entreprise d'insertion socio-professionnelle dans différents axes d'intervention.
Excellent. Donc, en 1986, s'est passé deux choses extraordinaires, ma naissance et celle de la CCHM. Donc ça, on va repartir déjà avec ça. Je ne savais pas que c'était une si belle année que ça, 1986. Maintenant qu'on l'a nommé. cuisine collective. Pour toi, pour moi, pour peut-être quelques personnes qui nous écoutent, c'est d'une évidence même qu'est-ce que c'est, mais il y en a pour lesquels ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. C'est-tu des gens qui font juste se présenter, qui se mettent à cuisiner ensemble? Est-ce que ce sont des groupes qui s'organisent, qui ont accès à un espace? Le but de la cuisine collective, j'imagine qu'il y a un but qui est relié à la sécurité alimentaire, puis il doit y avoir un but aussi qui vise à briser l'isolement d'une certaine façon. Disons que demain matin, je cogne à votre porte, je rentre, il y a des gens qui sont dans la cuisine. Qu'est-ce que je peux m'attendre à voir et qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cet instrument-là, ce levier-là que vous avez comme une cuisine collective?
C'est la plus belle chose qui pourrait t'arriver de passer la porte parce que tu te trouveras une deuxième maison. Bon. Tu as utilisé des mots-clés. Tu as parlé de sécurité alimentaire. Tu as parlé de rassembler les gens. Ouais. Les clés de la cuisine collective, c'est que c'est un lieu de mixité sociale. Donc, on parle de défavorisation, mais on parle d'un endroit qui appartient à tout le monde, qui est à tout le monde, où les gens se rassemblent avec comme vecteur, effectivement, la casserole.
Et Dieu sait que ça se... Comment? La cuisine a toujours été un lieu, en tout cas dans les mœurs québécoises, on voit tout le temps, là, s'il y a un party de famille, tout le monde se ramasse dans la cuisine. Hein? Il y a quelque chose de très central, la cuisine, c'est des souvenirs, c'est des traditions, c'est des discussions, c'est de mélanger des gens, puis c'est super intéressant ce que tu amènes, Benoît, de dire, ben, il y a une mixité sociale qui se crée, parce que, je veux dire, autour d'un repas, c'est plus important, la classe sociale, c'est plus important, le reste. Ce qui est important, c'est de partager le moment.
Oui, mais à tous les niveaux, même au sein de chez toi, dans ta propre famille, hein, ton ado avec ton grand-parent, puis avec toi-même, c'est des débats autour de la table, c'est des débats qui se passent dans la cuisine avec les casseroles. C'est un lieu de rassemblement où tout foisonne autour. Je crois qu'on peut dire que nos familles grandissent autour d'une table et dans une cuisine. Donc, c'est un vivier naturel à avoir des succès sur les valeurs humaines.
Ben oui, certainement. Puis il y a quelque chose avec les sens qui vient très, très vite. Tu as parlé d'un élément tantôt d'entreprise, d'insertion, parce que de l'insertion socio-professionnelle, donc j'imagine que ce sont des gens que vous, dans les sphères qui touchent la cuisine ou dans d'autres choses aussi, que vous permettez de s'outiller puis de se former pour peut-être aller se trouver un emploi par la suite?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui s'est rajouté il y a une petite vingtaine d'années, où effectivement, avec Service Québec, avec Emploi Québec à l'époque, il y a un modèle d'insertion socio-professionnelle qui n'est ni une école, ni un centre de formation, mais un apprentissage en milieu réel de travail. Donc, on a créé une formation à travers une entreprise. Donc là, l'organisme communautaire a, un petit peu évolué vers ce qu'on appellerait l'entreprise collective ou l'entreprise d'économie sociale. Il fallait avoir une activité économique. Yeah. Donc, la formation de 6 mois, à la base uniquement en cuisine, nous amène à les suivre après la formation en les amenant sur le marché du travail. On les accompagne pendant 2 ans. On démarre en cuisine, c'est ajouter d'autres activités économiques, dont je suppose, dont on va parler un petit peu après. Service à la clientèle, magasinier, puis depuis cette année, l'insertion socio-professionnelle dans le milieu de l'agriculture également.
Oui, parce que vous avez un statut d'agriculteur ou quelque chose comme ça que j'ai vu passer.
Oui, oui, depuis un an et demi, la cuisine est agricultrice. On a développé au tout démarrage, sur le toit de la cuisine collective, un potager qui était pour des raisons agrémentaires de drainage de toiture, qui nous a quand même produit un petit 700 kilos la première année. Donc là, c'est venu jouer dans les casseroles des groupes de cuisine collective. Ces 700 kilos ont éveillé les sens. On a été sollicité par la suite par Fondaction pour développer un potager avec eux, accompagné avec le milieu scolaire à côté. Ce qu'on faisait déjà avec l'école Baril, c'est reproduit avec l'école Champlain. Donc un outil éducatif aussi. Mmh. En faisant ça, par la suite, le 5600 Hochelaga met un espace à notre disposition. Donc là, on change d'échelle, on passe à du 3 tonnes de légumes par année. Donc on rentre dans un processus de production agricole. Est venu s'ajouter depuis un an et demi le siège social de la SAQ, où là, on change carrément d'échelle. Wow. On est en maraîchage, en pleine terre, avec une serre de 30 pieds par 190 pieds. Donc, on monte en quantité. Puis depuis cette année, un autre site, Scientific Game, qui s'occupe de faire entre autres les gratteux de l'Auto-Québec, a mis un autre terrain à notre disposition en maraîchage. Il y en a d'autres à venir par la suite. Mais tout de suite, on est à 60 000 pieds carrés plantés en pleine terre, à peu près 10 mois par année pour ce qui touche les serres. Donc, on a un gros volume. La SAQ et Scientific Game nous ont ajouté un peu plus de 130 arbres fruitiers. Donc, il y a du durable là-dedans dans la longévité.
Wow, puis ça met tout en perspective ma connaissance de Chaga Maisonneuve, parce que quand je passe sur Ontario, j'ai pas l'impression qu'il y a des places où on peut faire l'agriculture urbaine nécessairement dans le quartier, mais vous avez réussi à trouver, à optimiser chaque espace, puis déjà en commençant par votre toit au départ. Là.
On croit que tout est contaminé, hein, mais non, il y a des espaces qui sont propres, il y a des espaces qui sont disponibles, et j'ajouterais que le milieu de l'entreprise est prêt à intégrer l'action communautaire dans son territoire, et de s'ancrer dans la plus-value sociale que ça peut amener à l'expérience employée des gens qui travaillent chez eux. Donc, il y a un win-win qui tombe dans l'assiette des citoyens du quartier aussi.
Mais ça, ce win-win-là, il ne doit pas se faire en claquant des doigts, puis ça doit être une première conversation que les gens ne s'attendent peut-être pas à avoir avec vous quand vous arrivez. Benoît, vous avez, on le disait tantôt, là, bientôt ça va faire 10 ans, dans quelques mois. Il s'en est passé beaucoup de choses, je trouve, à la cuisine collective à Chaga Maisonneuve dans les 10 dernières années. Avant qu'on parle des autres sphères là, qui touchent à la CCHM, qu'est-ce que vous amenez là, il y a 10 ans, bientôt?
Je suis un ancien de la restauration, puis un ancien du communautaire aussi. On m'a mis en perspective une organisation où il y avait une relève de Nicole Forger-Bachonga qui partait à la retraite, et un endroit qui rassemblait mes deux métiers d'une certaine façon. Au-delà de mes deux métiers, ce qui m'a tout de suite apprivoisé, cette volonté de progression, de cheminer, autant en tant qu'individu, groupe de cuisine, que les personnes qui sont dans le parcours d'insertion, qui cherchent eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent chez nous de façon volontaire, ils veulent se remettre à l'endroit, puis rebondir dans la société. Tout le monde a le droit de se casser un peu la figure de temps en temps. De rebondir. Et l'écosystème des organismes ensemble ont une envie de cheminer aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. J'ai découvert ce qu'était l'entreprise collective, donc je dirais cette économie secondaire qui devient une économie d'influence et qui n'est plus si secondaire que ça.
Ben oui,
ça me parlait beaucoup.
OK. Ben, je trouve ça extraordinaire. Puis clairement, ça vous parle encore après toutes ces années.
Oui, ben, c'est la première fois que je reste aussi long là où je suis tout de suite. Et je crois que j'en ai pour un petit moment encore.
ben, vous avez encore un peu de pain sur la planche, je pense. Vous avez quand même réalisé beaucoup en 10 ans. Il s'est réalisé beaucoup depuis 1986. Là. Mais dans les 10 dernières années, puis dans les dernières années, en tout cas... j'entends parler de la cuisine collective de Chaga Maisonneuve, même si je suis complètement à l'opposé de l'île de Montréal, c'est pas mon quartier, j'en entends parler. J'ai eu la chance de passer à travers et il y en avait du stock dans un des paniers il y en avait des sortes de salades puis de radis et tout ça, puis je me suis régalé, j'ai eu la chance de goûter à ce que vous faites et on va en parler tantôt l'épicerie, là, mais si vous mettez la main sur les betteraves jaunes, érables et romarins, vous ne voudrez plus goûter à d'autres choses. Mais c'est très personnel, mais vous avez partir d'une cuisine collective qui pourrait rester dans une mission de cuisine collective qui est déjà extraordinaire, rappelons-le, ça pourrait n'être que ça. Vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire de plus avec cette cuisine-là, puis de l'amener ailleurs, parce que là, quand même, de faire des partenariats, vous parliez avec la SAQ, avec l'endroit où on fait les gratteux là, pour l'Auto-Québec. Ça vous vient d'où, toutes ces idées-là? Parce que j'ai pas l'impression que le chemin était défriché avant que vous ayez à le défricher non plus.
Il y a plein d'affaires dans ce que tu viens de dire. Il y a déjà, à la base, c'est pas Benoît, c'est une équipe très multidisciplinaire qui permet d'avancer en ce sens-là. Depuis un certain nombre d'années, on voit quand même un élastique qui se tend sur l'accessibilité à une saine alimentation. Donc, il y a une lutte qui se passe dans les mots, puis il y a une autre lutte qui doit se passer dans des propositions de cheminement collectif à aller quelque part. Et on voit le milieu communautaire qui tousse parfois sur sa capacité, autant avec la pénurie de main-d'œuvre que ses moyens. Donc, la notion du doux mot de la mutualisation, puis de se rassembler pour cheminer, l'économie sociale permet d'avoir un carrefour entre le communautaire pur et le milieu de l'entreprise privée. Donc, il y a un endroit où on peut se rassembler puis cheminer. Donc, c'est des opportunités où l'autosuffisance, en produisant nous-mêmes nos légumes, en étant de façon très schématique de la fourche à la fourchette, nous permet de rester en dehors de la fluctuation des prix puis de donner une accessibilité à tous. On parlait des légumes et puis des betteraves jaunes. La production agricole va dans toutes les sphères. Quand on parle de mixité, ils rejoignent autant la sécurité alimentaire dans les groupes de cuisine que dans de la distribution dans les milieux HLM, d'Hochelaga jusqu'à Pointe-aux-Trembles, mais ils vont aussi dans des paniers de saison, chez des restaurateurs, chez monsieur, madame, tout le monde, qui achètent au juste prix et qui permettent de financer ce qu'on donne en sécurité alimentaire. Donc c'est une opportunité qu'il faut prendre. Il y a des enjeux société, mais il y a des enjeux de société qui amènent la possibilité de rebondir sur certaines affaires. Et oui, juste la cuisine collective en soi-même est quelque chose d'extraordinaire et qui n'aurait pas besoin de beaucoup plus d'autres choses. Et la CCHM, pour le mettre en synthétique, est un peu un outil micro et macro à la fois.
À la fois. Et il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article qui ne parle pas de la hausse des prix du panier d'épicerie. Cette semaine encore, là, je voyais des comparatifs entre acheter des trucs au Dollarama versus à l'épicerie. On le sait, il y a une pression financière sur les familles qui fait en sorte que il y a des gens qui n'avaient peut-être pas besoin de banque alimentaire il y a quelques années, puis maintenant, ils en ont besoin, qui doivent faire des choix. Puis des fois, ce n'est pas toujours des choix qui sont les plus sains parce qu'on fait des choix économiques à travers tout ça. Quel impact ça a chez vous? Et probablement que c'est des impacts qui sont à différents niveaux, mais que ça a cette variation-là du prix des aliments, cette pression-là financière aussi qui est arrivée là, avec tout ça, comment ça se traduit?
C'est assez majeur, hein, parce que le premier endroit où on est abîmé, puis on parle de l'alimentation, mais il y a le loyer avant qui vient impacter. La première chose dans laquelle on va couper, c'est l'alimentation. C'est le premier endroit.
Oui, parce que le reste, on ne peut pas négocier notre facture d'Hydro-Québec, notre facture d'Internet, notre loyer. Mm-hmm. La place qui nous reste, c'est l'alimentation. C'est un peu dommage.
C'est là qu'on coupe en premier. Ben oui. C'est l'endroit où on coupe en premier. Donc, si je prends au niveau des cuisines collectives, d'un groupe de cuisines collectives, il y a tout un vivier de citoyens qui ne venaient pas avant dans des cuisines collectives qui viennent, que ce soit les jeunes étudiants, les personnes qui sont à l'emploi mais qui ont un salaire qui est moyen et qui n'arrivent pas à rejoindre les fins de mois, les familles monoparentales, même avec une situation de revenus relativement aisée, ça devient difficile. Donc il y a beaucoup de gens qui ne venaient pas dans les cuisines collectives qui viennent maintenant. Et je les invite à la faire de plus en plus parce qu'on croit que venir dans une cuisine, c'est une histoire de sécurité alimentaire pour les gens qui ont faim. Non, c'est un lieu de vie où on trouve des solutions ensemble. Et tout le monde, de par cette mixité sociale, passe la porte de façon naturelle avec la tête haute et non pas avec « ça y est, il faut que j'aille utiliser une banque alimentaire ». C'est une façon de le faire intelligente et où on garde sa fierté de soi-même.
Mais totalement, totalement. Non, la pression doit être très grande. On avait vu des entrevues, des articles disant même que des étudiants sur les campus maintenant ont besoin de banque alimentaire. Il y a une insécurité alimentaire qui ratisse beaucoup plus large qu'avant et ça rend ça fragile. Il y a un marché solidaire aussi à travers tout ça? Est-ce que ça se peut?
Il y a des marchés solidaires.
Des marchés solidaires. Voilà.
On a été soutenus.
Vous couvrez, parce que tantôt, vous avez même fait référence jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Donc là, on est dans un pôle de l'Est, là. Plus qu'exclusivement à Chaga Maisonneuve.
Le pôle de l'Est, il y a des belles nouvelles qui vont s'en venir un peu plus tard dans l'automne.
On va suivre ça.
Mais oui, il y a des marchés. Déjà, on était soutenus par un marché dans notre quartier ici, parce que moi j'habite centre-sud. Ouais. Le marché Frontenac a été un des premiers marchés solidaires à décider de nous acheter un petit peu de légumes qui venaient de la ferme.
Ah oui.
Donc on est soutenus par le marché solidaire. Ensuite, à la cuisine collective, avec des partenaires du quartier, on a ouvert le marché solidaire HM. La COVID faisant, on s'en est occupé un petit peu tout seul. Et là, l'arrondissement est venu jouer avec nous, avec une autre organisation qui s'appelle YAM. Et on a plusieurs points de chute où il y a des marchés solidaires. On en a quatre dans l'arrondissement qui sont soutenus par la cuisine collective, YAM et l'arrondissement Merci Hochelaga-Maisonneuve. Donc oui, ça fait des petits au niveau de l'accessibilité à monsieur, madame, tout le monde, parfois dans un endroit privilégié, d'autres fois dans un désert alimentaire.
Oui, ça c'est important de le noter également pour le désert. Puis je trouve que le marché solidaire, des fois, est une belle, ou les marchés solidaires dans votre cas, est une belle façon de venir tâter le terrain, puis de voir la mixité sociale, comment ça peut se reproduire. Comme je ne suis pas résident à chaque Maisonneuve, je laisse vos marchés solidaires à vos gens, mais quand je vois un dans mon quartier, ben, on a des gens de tout type, de tout azimut, puis en tout cas, dans le cas que j'ai vu, il y a des prix suggérés, il y en a qui donnent davantage, sont en mesure de donner davantage, il y en a qui sont moins en mesure, puis ils donnent moins, puis tout le monde navigue dans tout ça, donc il y a une belle adaptabilité aussi à la réalité de chacun. Moi, je trouve ça fascinant.
Mais tu peux, hein, Daniel, hein, Hochelaga-Maisonneuve ne mord pas. Il y a une belle rue Ontario piétonnière pendant la période estivale où on accède à tout ça autant qu'ici.
je vais y penser, mais je vais laisser les gens de votre région, comme si on était à l'autre bout du monde. J'habite toujours bien sur l'île. Benoît, comme je commence à déparler et à dire n'importe quoi, on va prendre une petite pause, si tu le veux bien, puis on va revenir dans quelques instants. On est avec Benoît de Perlong de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Reste à l'écoute.
Merci.
Alors, on est de retour avec Benoît de Perlong de Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. On a parlé d'un tas de trucs fascinants parce que c'est grand, cette réalité-là, la réalité de l'alimentation, la réalité de la cuisine, la réalité qui touche nos ventes, parce qu'on a compris à un moment donné dans la vie que pour avoir l'esprit ouvert à l'apprentissage et à la vie et à quoi que ce soit, ben, il faut aussi avoir le ventre rempli à un moment donné. On a parlé de beaucoup de choses, puis là, à un moment donné, j'ai glissé un mot, j'ai parlé des betteraves jaunes. Comme organisation où je travaille, il nous arrive de faire affaire avec le service traiteur de la cuisine collective de Hochelaga-Maisonneuve. Le service traiteur, il vise, j'imagine, un autre public par défaut?
Il vise un peu tout le monde, parce que ça reste quand même des prix qui sont accessibles.
Oui, oui.
Rappelons que autant le service traiteur que la cafétéria qu'on a à la CSN, que le pôle d'approvisionnement de l'Est avec la ferme, sont des endroits d'insertion socio-professionnelle. Donc, ça garde un outil de formation avec une activité économique à un prix accessible. Donc, le service traiteur, oui, est quelque chose qui est existant depuis le début de l'entreprise d'insertion, qui a un petit peu évolué dans ce qu'on appelle, on va le nommer, la COVID, où tous les traiteurs se sont arrêtés. On a développé une ligne de produits, de plateforme de vente en ligne qui est démarrée avec l'épicerie. Donc, il fallait qu'on puisse alimenter la communauté, mais avoir une activité économique aussi. Donc, on a développé une plateforme de vente en ligne où toute une épicerie est présente. Et comme le traiteur était fermé, pour maintenir l'insertion professionnelle en même temps qu'on faisait de la sécurité alimentaire dans les milieux HLM, on a développé une ligne de plats cuisinés qui maintenant sont disponibles autant sur notre plateforme de vente en ligne à la cchm.com que sur une autre plateforme qui n'était pas inconnue qui s'appelle La Cantine pour tous.
Oui, La Cantine pour tous. Il me semble que ça me dit quelque chose. La cantine pour tous, l'objectif étant?
Il y a deux actions différentes. La cantine pour tous s'occupe d'une mesure alimentaire universelle dans les écoles primaires.
Voilà.
Et le deuxième segment, qu'on appelle la cantine à domicile, ce sont des plats cuisinés qui viennent de traiteurs sociaux comme la cuisine collective. Okay. Il y en a 6 ou 7 qui sont présents, où on s'assure d'avoir des prix avec une accessibilité à tarification sociale.
Okay. Il y a un volet école, puis un volet plus pas troulante, dans le vocabulaire. Donc, le service traiteur qui, en tout cas, si jamais vous vous posez la question, c'est extraordinaire. Là, j'ai eu la chance de l'essayer à quelques reprises. L'épicerie en ligne, ben, il y a certains produits que j'ai connus, que j'ai visités, que j'ai dégustés et que je vous recommande certainement. On a parlé... On a parlé beaucoup d'insécurité alimentaire, puis je pense que ça fait partie aussi de la mission de la saine alimentation, mais pas juste la saine alimentation, déjà de s'alimenter, parce que vous avez fait référence dans la première partie au désert alimentaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de déserts alimentaires ou il y a des zones où c'est difficile de se trouver de la nourriture de qualité dans chaque maisonneuve?
Oui, il y a des endroits qui sont encore difficiles. Faut
que je sorte de la rue Ontario quand je m'en vais dans Schlaga parce que je...
Oui,
clairement.
Il y a des endroits qui sont encore difficiles, qui sont compliqués. On parle de Schlaga Maisonneuve, on peut parler de Mercier au Schlaga Maisonneuve, on peut parler de tout l'est de Montréal où il y a des enclaves sans aucune accessibilité à l'alimentation. Donc c'est un gros défi encore aujourd'hui, en 2023, d'avoir des endroits où l'accessibilité à l'alimentation est compliquée, difficile, et en général, souvent un endroit où il y a un niveau de pauvreté qui est assez aigu aussi.
Oui. Puis, on a parlé tantôt, bon, évidemment, vous êtes de la fourche à la fourchette, là, pour reprendre l'expression. Donc, évidemment, il y a une portion à fruits et légumes que vous pouvez créer. Mais on sait bien que les gens ne font pas que manger des fruits et légumes. Pour le reste du bout, les aliments, les autres aliments qui sont nécessaires, par exemple, soit dans un principe de banque alimentaire ou même les ressources que vous achetez pour faire vos plats cuisinés, ben vous aussi, vous devez les payer un petit peu plus cher ou ça doit être plus difficile à obtenir parce qu'il doit y avoir quand même plus de demandes que d'offres, là.
Mais comme, comme les restaurateurs qui nous soutiennent en achetant nos légumes, on a la même bataille que d'avoir des grossistes. Donc, on a des partenaires traditionnels. On est en train d'ouvrir au sous-sol de la cuisine un grand supermarché général à l'ancienne pour l'accessibilité. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Mais on se fait aider par plusieurs partenaires. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire pure, on a un gros acteur qui est présent dans tous les organismes communautaires qui s'appelle Moisson Montréal, qui est une aide extraordinaire. Ne serait-ce qu'un groupe de cuisine collective a accès autant aux protéines qu'aux légumes et d'autres produits pour pouvoir faire une cuisine à prix réduit. Au niveau de nos achats, on a un autre acteur, que ce soit Méran, qui nous soutient beaucoup dans nos actions, rend l'accessibilité à des produits beaucoup plus facile. Mais ça reste l'organisation à la même lutte que le citoyen dans des prix accessibles.
Ben oui, j'imagine donc probablement que vous devez faire face à certains enjeux comme tout le monde. Comme vous dites, on a tous besoin de manger, puis on réalise tous quand on passe à la caisse que ça augmente un petit peu, disons.
Oui, et puis notre caisse à nous, hein, tu parlais intrinsèquement du traiteur, ou je parlais de la cafétéria, ou les paniers de saison, la plateforme de vente en ligne. Quand on achète au juste prix, on contribue justement à cette accessibilité à bas coût pour ceux qui en ont le plus besoin, ou gratuitement. Que notre ferme donne 30% de ses récoltes gratuitement dans le milieu.
Et ça, c'est hyper important pour les gens qui pourraient se sentir peut-être mal d'aller acheter des choses chez vous ou d'acheter au juste prix chez vous en se disant « bon, je vais laisser pour les gens qui en ont le plus besoin ». Ben, il faut comprendre que tout le monde a un rôle à jouer à travers tout ça pour justement que ceux qui en ont le plus besoin, qui n'ont peut-être pas les moyens financiers, puissent en bénéficier. Donc il y a toute une roue à travers tout ça et chacun a une place à jouer là-dedans.
Oui, au contraire, il devrait se sentir mal de ne pas acheter chez nous.
Ben voilà, c'est ça. Hein? Parce que le premier réflexe, moi, j'ai été à une épicerie solidaire dans mon quartier, il y a ça. Puis au début, je disais, ben est-ce que je devrais venir acheter ici ou je devrais laisser la place aux gens qui en ont le plus besoin? Elle dit, ben non, au contraire, on veut que ce soit un lieu de mixité sociale. On veut que, ben justement, vous n'êtes pas membre parce que vous ne faites pas du bénévolat, ben, vous payez un peu plus cher, ce qui fait en sorte qu'on maintient nos prix, puis ceux qui sont membres paient moins cher, ils font du bénévolat en plus. Donc elle dit, tout le monde trouve sa place, puis j'imagine que c'est le même principe.
Il y a plein de formules différentes, mais c'est le principe en soi-même de l'entreprise collective. On va trouver des... Tu as déjà vu dans des cafés, le café au suivant, quelqu'un achète le café. Ben, les épiceries, les magasins, les cuisines collectives, c'est la même chose. Un groupe de cuisine collective, avec quelqu'un qui est avocate et quelqu'un qui est sans emploi depuis 10 ans, ils collaborent à essayer de trouver un juste prix dans la production qu'ils vont avoir. Et que chacun trouve son compte à l'intérieur de ça. Donc, que ce soit dans l'achat ou dans la production, on retrouve cette réalité. Et ça, c'est l'entreprise collective qui permet d'avoir ces valeurs-là communes.
Vraiment. Il n'y a jamais personne encore qui m'a payé de café. C'est peut-être juste mon attitude, finalement, plus que le suivant, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Ça sera une autre émission.
Fallait dire, s'il te plaît.
c'est peut-être ça. Peut-être juste revenir à la base, des fois. On a parlé quand même de quelques projets qui s'en viennent. Là. Bon, dans le sous-sol, clairement, il va se passer quelque chose avec une épicerie. Puis pour vous connaître un peu, puis vous regarder aller, clairement, vous restez pas en place longtemps, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Ou est-ce que vous avez encore d'autres grands projets devant vous, là?
On a quelques projets
dont vous pouvez nous parler.
Oui, on a quelques projets. Il y en a un, on parlait de desservir l'Est de Montréal jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Ça, on en parlera un peu plus tard à la mi-octobre. Parfait. C'est une réalité qui, quand on parlait de pouvoir soutenir les organismes, on s'en va là clairement. Les sites agricoles tels qu'on les a, là, on est à 60 000 pieds carrés. Je crois que l'année prochaine, on devrait atteindre les 120 000 pieds carrés de production agricole. Les arbres fruitiers aussi vont être en croissance. Donc, il y a beaucoup de besoins de livrables au niveau de la communauté, puis je dirais aussi au niveau de nos équipes de travail, où on sait que le communautaire et l'entreprise collective sont des endroits où les conditions de travail sont à garder de qualité si on veut maintenir notre monde en place. Oui. Donc, je dirais qu'un des projets qui est en devenir est un qu'on travaille depuis bientôt 2 ans maintenant. On a créé une fondation à la cuisine collective pour financer nos activités. Donc, on est dans une campagne majeure à l'heure actuelle qui est dans la phase silencieuse de cette chose-là.
On n'en parlera pas trop fort.
Non, ça deviendra public à partir du 12 octobre.
Oh, c'est une
mais,
bonne nouvelle, ça.
On est fiers d'aller chercher un 50% ou un 60% dans nos revenus auto-générés de production en activité économique. Mais ça, plus les subventions, ne suffisent plus. Donc, il faut qu'on trouve d'autres interventions, d'autres façons de faire. Et c'est une de celles-là qui arrive.
Ah, ben ça m'intéresse, ça me parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Donc, ben effectivement, ça, j'ai vu sur votre site là, que vous aviez fait naître une fondation. D'ailleurs, vous avez parlé tantôt de votre site. Ben, j'invite les gens, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à la cuisine collective à chaque Maisonneuve. Si jamais là, vous avez perdu le fil ou si justement vous avez gardé le fil, mais ça vous a ouvert l'appétit ou vous voulez voir comment vous pourriez soit bénéficier ou soutenir, je vous invite à le faire. On va y revenir dans quelques instants, mais le site, c'est lacchm.com. Et quand je dis là, c'est pas pour réintroduire le site, là, c'est vraiment lacchm.com.
T'en as un deuxième?
Je vous écoute.
Pour la ferme, pour les paniers de saison, c'est lacchm.ca.
Bon, tout pour me mélanger, mais non. Donc, lacchm.com, ouvrez deux onglets, ouvrez aussi lacchm.ca pour être sûr de tout voir ce que vous avez à voir de cet organisme qui est extraordinaire. Benoît, ça a passé extrêmement vite. J'en ai appris beaucoup, même si je connaissais un peu l'organisation. Clairement, j'ai besoin d'aller faire un tour dans Schlager Maisonneuve. Ça, je l'ai compris et ça va être avec grand plaisir pour aller voir ce qui se passe derrière les portes de la cuisine, mais aussi pour découvrir tout ce que fait la cuisine collective. Merci.
Ben, ça fait plaisir. C'est un lieu d'implication. La ferme est un endroit où on a un peu plus de 200 bénévoles qui viennent s'impliquer sur le terrain, autant le milieu corporatif que citoyen. Ceux qui veulent venir contribuer à ce qu'on est en train de faire, c'est faisable.
Ah, ben ça, c'est intéressant. Donc, si jamais vous voulez soit en bénéficier ou savoir comment vous pouvez soutenir, allez sur les sites ou sinon, vous pouvez également appeler au 514-529-0789. Merci beaucoup, encore une fois, Benoît. C'est tout pour aujourd'hui.